News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble. Et nous voici de retour depuis l'Alpexpo Grenoble pour ce forum des métiers de la transition écologique toute la journée de ce jeudi et demain également, vous l'avez compris avec le liner. Petit plateau spécial, c'est une table ronde que nous allons entamer tout de suite pour l'heure qui vient afin de discuter d'un sujet qui est absolument dans l'ordre de ce forum axé sur la transition écologique. Nous allons discuter des nouveaux métiers de l'énergie. Myriam nous a rejoint. Salut à toi, Myriam.
Bonjour, Christophe. Ça va?
Ça va très bien. Et toi?
Ça va bien, merci.
Bienvenue à l'antenne. Donc, n'hésite pas, Myriam, durant cette table ronde, si tu veux poser tes questions à nos invités les interpeller ou réagir ou me couper la parole, n'hésite pas à le faire.
Je te remercie.
Et voilà, parce que je suis très bavard et des fois, quand je suis lancé, on ne m'arrête plus. Et peut-être que nos invités sont un peu comme moi. On ne les arrêtera plus une fois qu'ils auront la parole. On va voir ça. En tout cas, on fait les présentations. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Manuel Lénas, qui représente EDF. Bonjour, Manuel.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Nous avons Mickaël Guillain. C'est Guillain ou Guillain ?
Guillain.
Guillain, pardon.
Bonjour.
Voilà, de la société Waga. Sophie Catuogno pour la société Stili. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, nous accueillons Adamo Screnchi pour la société HRS.
Bonjour.
Bonjour à tous les quatre. Merci d'avoir accepté de venir passer un petit moment sur notre antenne pour aborder ce thème des nouveaux métiers de l'énergie. Alors, je le disais, effectivement, hein, c'est au cœur de cette thématique de transition écologique. Depuis ce matin, on a reçu déjà pas mal d'invités qui nous ont parlé de leurs structures respectives, de ce qu'ils font, des nombreuses actions menées. Et puis, évidemment, de la thématique des métiers, puisque c'est ce qui intéresse une grande partie du public qui vient ici aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, ce serait tout à fait justifié que chacun puisse nous présenter un peu plus sa société et ce que vous faites, sur quel créneau vous êtes positionné. On va commencer à ma gauche avec Mickaël Guillain pour Waga.
Alors, merci donc. Waga Energy en fait s'occupe de récupérer le biogaz brut qui est produit par les décharges. En fait, donc c'est valoriser le déchet, valoriser les gaz produits par les déchets. Donc le principe, c'est sur une décharge, la décharge est couverte, elle produit assez naturellement du biogaz, mais un biogaz qui serait inadapté pour une utilisation énergétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Ce biogaz, on va le récupérer, on va le nettoyer, on va l'épurer, etc., jusqu'à récupérer uniquement le méthane, qui est en fait la principale molécule du gaz naturel. Mmh. Et donc l'idée, c'est que ce biogaz-là, ce biométhane, donc du coup, va pouvoir être utilisé à la place du gaz naturel, et lui, il aura donc une provenance renouvelable, et en tout cas, il est utilisé à la place de gaz qui, de toute façon, partira à l'atmosphère. Et c'est ça l'idée de base de Waga Energy, c'est de récupérer ce gaz et de mettre ce gaz dans les réseaux de GRDF à la place du gaz naturel, donc limiter ce gaspillage d'énergie.
Alors, je suppose qu'il faut récupérer le gaz sur pas mal de décharges pour arriver à avoir une quantité significative.
Alors, effectivement, mais il y a quand même un gros potentiel. Au niveau des effets de serre, les gaz de décharge représentent quand même 5% au niveau mondial des gaz à effet de serre. Donc, ça fait quand même un impact assez important. Il y a en gros 20 000 décharges qui seraient à couvrir et à récupérer. Nos objectifs, nous, c'est une centaine de décharges qui seraient récupérées comme ça à l'horizon 2026. Et ça fait quand même 4 TWh, je crois. Donc, c'est pas des chiffres.
C'est pas négligeable.
Voilà, c'est pas négligeable, même si c'est pas non plus des chiffres ahurissants. Mais si les 20 000 décharges, si on arrive à couvrir 20 000 décharges, oui, c'est sûr que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue limitation des gaz à effet de serre et de l'autre côté, d'un point de vue énergie récupérée, oui.
Les chiffres que vous nous donnez, c'est uniquement pour notre pays, pour la France.
Alors non, puisque Waga est sur la France, effectivement, on a un certain nombre d'usines, mais on a aussi des usines qui sont actuellement en construction ou prévues avec des partenaires aux USA, au Canada, en Espagne pour le moment. On a même des contacts qui peuvent se faire dans d'autres pays, enfin dans des commerciaux qui cherchent un peu partout, et la liste des pays intéressés est quand même assez longue.
Et ça fait combien de temps que Waga existe ?
Alors Waga existe depuis... Waouh !
Très longtemps ? Si longtemps que
non,
ça ?
Non, entre 5 et 6 ans je dirais.
Voilà, c'est relativement récent.
Non, c'est quand même relativement récent, société. C'est une entreprise qui fait en gros une centaine de personnes aujourd'hui, un peu plus, avec les filiales qui se mettent dans le monde. Donc avec une belle expansion, puisque on était, si je me rappelle, 80 à peu près en 2021. Et là, on a eu à peu près 50 embauches juste depuis janvier 2022.
Voilà, donc on voit que c'est une société et qui est bien dans la thématique. Hein,
voilà, et on espère continuer à embaucher beaucoup.
À vos côtés, la société EDF, alors est-il besoin de la présenter ? Je pense que si, parce que pour le grand public... Pour le grand public, on imagine forcément, bon, EDF, c'est énergie, fournisseur d'énergie, électricité, gaz, mais on ignore peut-être ou on méconnaît peut-être pas mal de choses que cette société fait oui. En France. Donc, Manuel Lénas, pour nous présenter un peu l'ensemble des actions.
Alors, l'ensemble, non, mais en tout cas, pour faire simple, EDF, c'est un grand groupe énergétique. Et on est présent sur toute la chaîne de valeur de l'électricité. C'est-à-dire qu'on est à la fois producteur avec différentes filières, nucléaire, énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, hydraulique. Moi, je suis dans le secteur de l'hydraulique ici, localement sur les Alpes. Et à côté de la production, il y a aussi le transport d'électricité sur les lignes haute tension, très haute tension. Donc ça, c'est une filiale qui s'appelle RTE. Ensuite, vous avez la distribution d'électricité via Enedis. C'est aussi une filiale du groupe EDF. Et puis après, vous avez tout un tas de directions et de services qui vendent l'énergie et qui font du service énergétique dans les bâtiments, dans les collectivités, dans les entreprises ou les industriels. Donc on est de l'amont, c'est-à-dire la production du kilowattheure, jusqu'à son usage chez le client final. Voilà. Et on est 165 000 collaborateurs dans le monde. Pour l'essentiel en France, puisqu'on est un grand opérateur énergétique français. Voilà, et puis puisqu'on est sur un forum des métiers, on a à peu près 240 métiers différents à l'intérieur de nos différentes structures françaises.
Je vais passer la parole maintenant à la seule dame de la table. Pardon, Myriam, ce n'est pas la seule dame, vous êtes deux. Hein. Vous êtes en minorité quand même.
Ça change pas grand-chose, mais bon.
ça compte double.
Nous avons Sophie Catuonio. Alors, l'entreprise Stili.
Alors, ça va paraître bien modeste après EDF, mais bon, j'assume. Alors, c'est une jolie histoire, c'est-à-dire que c'est une histoire familiale. À la base... c'est une société qui s'appelle ACS, Atelier Chaudronné de Sassenage, et qui est dans l'énergie depuis 20 ans, puisque notre grosse spécialité, c'est la fabrication de pièces chaudronnées dédiées à l'hydroélectricité tout particulièrement, mais également au nucléaire, au offshore, à la chimie, etc. Nous fabriquons des pièces unitaires plutôt très techniques. C'est une entreprise qui a 20 ans, qui a été créée par mon père, donc il y a 20 ans, et que j'ai racheté à mon père il y a 6 ans. Il y a un an et demi, on a souhaité se diversifier et en fait la filière hydrogène a commencé à émerger suite aux annonces du plan de relance et on travaillait déjà dans ce domaine-là pour un des gros donneurs d'ordre émergents de la mobilité pour qui on construisait la partie distribution, leur prototype. Et donc l'idée nous est venue qu'on travaille les métaux et à un moment donné, pour développer cette filière hydrogène, il faut aussi beaucoup de métal, puisque quand vous parlez de stations hydrogène, tout ce qui est station de distribution, c'est tout en métal. Il y a de la conteneurisation, des skids, c'est de la tuyauterie, etc. Plein de métiers divers et variés. On travaille aussi dans le biogaz. Parce que pareil, pour mes prédécesseurs, vous parlez biogaz, mais pour pouvoir distribuer ce biogaz, il faut faire beaucoup de tuyauterie. Et donc j'ai fait le tour un peu des gros donneurs d'ordre émergents en leur disant il va falloir développer fortement ces marchés-là, puisque, ben, par exemple, dans le cadre du plan de relance, 9 milliards ont été donnés par l'État pour pouvoir développer cette filière. Est-ce que vous seriez intéressé par la création d'une entreprise qui serait spécialisée et dédiée à la standardisation et l'industrialisation de tout ce qui est métallique dans vos métiers? Et à l'unanimité, ça a été oui. Donc on a fait des demandes de subventions, on a créé Stili et à notre grande et belle surprise, l'État et la région nous ont énormément suivis. Pour l'instant, c'est un modèle unique en France. Stili, c'est un bâtiment qui est en pleine construction, qui va se terminer à la fin de l'année et qui va commencer à être exploité fin du premier trimestre 2023. Alors on est fiers parce que c'est pas rien pour nous. À la base, on est une petite entreprise familiale de 15 personnes. On va embaucher un peu plus de 30 personnes d'ici un an et on a pour objectif d'en embaucher une centaine à 2030. Donc un fort développement pour une petite structure comme la nôtre. Alors on est au Forum des métiers, donc on va embaucher une quinzaine de métiers. On en parlera certainement plus tard, mais voilà qui est Stili. C'est une entreprise fortement tournée vers l'environnement. Enfin, c'est un groupe plutôt, parce que c'est le groupe s'appelle Groupe ACS Steel, dans lequel donc il y a ACS, la chaudronnerie et puis Stili qui va s'occuper de la standardisation de tout ce qui est gaz et biogaz.
Là, vous l'avez dit, donc historiquement, vous êtes une entreprise locale basée sur Sassenage.
Absolument.
Donc avec le développement, l'idée c'est de sortir un petit peu de l'agglo grenobloise, de la région grenobloise.
Moi très sincèrement j'aime bien ma région. Et puis on a 80% des acteurs de la filière hydrogène qui sont pour l'instant en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour l'instant on ne partira pas. On est fiers d'être dans cette région et voilà, on est en plus très accompagnés par la région, donc il n'y a aucune raison qu'on parte.
Notre dernier invité, donc, qui représente la société HRS, Adamo Scrunchy. HRS, donc des initiales, qui veulent dire?
Alors, ça veut dire Hydrogen Refueling Solution, en français, solution de ravitaillement à hydrogène. On continue, c'est une bonne introduction faite par Sophie sur l'hydrogène. Alors, HRS est né en 2004, en fait, c'est historiquement des spécialistes de la tuyauterie, du gaz, de la haute pression. Pendant une dizaine d'années, ont été fabricants de stations pour des grands donneurs d'ordre. Je vais vous donner un chiffre. En Europe, on a déployé en 20 ans 200 stations. Il y en a 40 qui ont été faites à Champs-sur-Drac dans notre région, qui ont été déployées dans l'Europe. Donc c'est déjà une part de marché considérable sur ce domaine-là. Et donc, en 2020, il y a eu la volonté d'accélérer, d'aller chercher des financements. Et là, ça n'a pas été des financements publics, ça a été vraiment d'aller chercher à la bourse. C'était vraiment une ambition très forte d'accélérer. C'est, février 2021, la société est cotée en bourse à Euronext avec une très belle levée d'argent qui permet d'accélérer. En 2020, en deux mots, il y avait une vingtaine de personnes dans la société. Aujourd'hui, on est 84. J'ai rejoint moi-même la société en septembre 2021, il y a peu de temps, pour accélérer encore cette société avec beaucoup d'embauches, beaucoup de partenariats. On a aussi un bâtiment qui est en train d'être construit dont les premières livraisons vont arriver en septembre de cette année. On sera voisin à Champagné, 15 000 m2, c'est unique au monde en termes de capacité de production de stations. On sera capable de produire 180 stations par an. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je dis en Europe, on en a installé 200 en 20 ans. Donc vous voyez le changement d'échelle. En un an, nous seuls, on est capable.
Exponentiel.
On prend notre part du jeu, je dirais, en tant qu'entrepreneur, d'investir pour pouvoir faire les choses à l'échelle et de passer au niveau industriel. On est un spécialiste de la station. On veut se focaliser sur ça. Pourquoi ? Pour industrialiser, pour baisser les coûts, pour fiabiliser. Et c'est notre credo. On a multiplié le nombre de partenariats. Comme je disais tout à l'heure, notre première livraison de la partie de l'usine, en fait, ce que j'appelle la nouvelle usine, je la découpe en trois morceaux. Premièrement, une plateforme d'essai d'environ 3000 m2. Là aussi, unique en Europe, où on va accueillir des partenariats. C'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent travailler sur l'hydrogène, tester des stockages, tester des compresseurs, tester des composants. Il n'y a pas d'endroit où le faire. On va leur donner cette possibilité. Des étudiants, c'est pareil. On est déjà en discussion avec tout l'écosystème grenoblois, que ce soit les centres de recherche, les écoles d'ingénieurs, les apprentissages, disent oui, mais on voudrait comprendre ce que c'est que l'hydrogène. On en parle beaucoup depuis un an et demi, il y a une accélération forte. Mais comment accompagner toute l'évolution et la transformation de la société pour pouvoir fournir les ressources qui vont être nécessaires à fabriquer et à exploiter ces équipements? On aura cette possibilité-là. Et puis, deuxième étape, ça va être vraiment la production en tant que telle. Et troisième étape, les bureaux. Donc c'est vraiment l'objectif de la plateforme de test qui est pour moi au cœur de la, du développement de la société. Je vous ai dit 64 personnes en plus en moins d'un an. On va continuer. L'objectif, c'est 160-2025. C'est ça l'objectif de la taille estimée. Après, en fonction de l'évolution des marchés. On attaque déjà l'international. On a déjà pris des contacts en Espagne, en Italie. Il y a deux choses. Bien sûr, on veut fabriquer localement, le plus local, utiliser les suppliers, enfin les fournisseurs locaux. On fait des cercles concentriques à partir de notre région. Et notre région, comme on l'a vu, est très dynamique dans le domaine de l'hydrogène. Mais on a aussi volonté à aller s'étendre au moins en Europe et de faire des partenariats. On est capable non seulement de faire des stations, de les installer, de les designer, de les exploiter, enfin de faire la maintenance derrière. Mais on est capable aussi, pour accompagner le développement, de faire des usines à station, en fait. Si on augmente, comme on le pense, exponentiellement, 180 stations par an, c'est rien du tout. Par rapport aux quantités qu'on pourrait imaginer. Il y a déjà des projets où, dans certains pays, ils veulent déployer 1000 stations, 5000 stations. Enfin, vous voyez le nombre. On en a plus de 25 000 de stations essence en France. Donc, une centaine, c'est rien du tout. Si on veut aller plus loin, on veut être capable d'amener la compétence d'une usine de station qui peut être faite en Italie, qui peut être faite en Espagne, qui peut être faite en Allemagne, parce que le local est important aussi, le service, la prévente, etc. Voilà en deux mots.
Alors moi, j'ai une question qui me vient à un peu tous, puisque vous avez les uns et les autres expliqué que vous étiez dans des démarches de recrutement assez importantes à différentes échelles. Hein. Mais pour vos entreprises, quel type de profil vous recrutez? Pour quel type de métier, quel type de qualification? Aujourd'hui, c'est quoi le profil recherché pour travailler dans l'énergie? Vous pouvez répondre.
Allez, je me jette. Bon, bah, je vais commencer. Les profils qui nous posent problème au recrutement sont des profils qui sont très techniques.
Poser problème, ça veut dire que c'est tendu.
C'est-à-dire, c'est des difficultés, oui, des difficultés à trouver. Et en gros, quand on va passer une annonce, on va avoir très peu de réponses, voire aucune réponse en fait. Et ça, c'est sur des profils très techniques qu'on va avoir. Donc, on va avoir nous des besoins, soit en ingénieur, soit en technicien. Mais après, on va avoir besoin d'un certain nombre de compétences. Et ces compétences, par rapport au gaz, en tout cas, sont déjà au niveau de l'industrie gazière classique, on peut dire Total, etc. Ils avaient déjà des problèmes de recrutement. C'est quelque chose d'assez tendu, assez difficile. Et nous, on vient se rajouter en plus. Donc, on a vraiment un problème là-dessus de recrutement. Ça, c'est le genre de profil. Après, on reparlera peut-être de comment on peut améliorer ça et un peu les pistes qu'on a. On va avoir aussi besoin de chefs de projet, par exemple. Donc les chefs de projet, ça va plutôt être type ingénieur, mais on peut aussi avoir des techniciens très expérimentés qui peuvent être intéressés. Là, ça va être des métiers plutôt de, on va dire, de faire la liaison, de construire l'usine depuis le début avec toutes les relations fournisseurs, etc. C'est peut-être avec des gens comme Stili qu'on va travailler pour construire les usines, fabriquer le piping, enfin les tuyaux, etc. Et puis on va aller jusqu'à l'installation sur site, et puis ensuite on va démarrer cette usine. Et là, le rôle du chef de projet va s'arrêter, on va passer en exploitation. L'exploitation, ça va plutôt être des techniciens qui vont s'occuper de faire fonctionner la machine, quel que soit le temps, en toutes conditions, toute heure, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne en continu. Et derrière, on a encore des profils de maintenance. C'est eux qui vont faire en sorte que la machine soit toujours en état de fonctionner correctement, l'arrêter au bon moment, changer la bonne pièce au bon endroit, etc.
D'accord, différentes qualifications aussi, d'après ce que je comprends bien.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment trois types de métiers très importants chez nous, et les profils qu'on rejoint. On a deux profils, le technicien, l'ingénieur, et après avec beaucoup de passerelles de l'un à l'autre.
Ah d'accord, ça c'est intéressant, c'est bon à savoir pour
les candidats. C'est très important puisque je pense surtout aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément envie de rester dans un seul métier. Donc il va falloir qu'il y ait une évolution possible, enfin même pas une évolution en fait, c'est juste une diversification. Les gens cherchent à connaître les alentours de leur métier, ce qui se passe autour, changer un petit peu, évoluer sans pour autant remettre en cause complètement et aller dans une réorientation complète. Donc on peut aller justement vers ce genre de choses.
Très bien, je vous remercie. Et qu'en est-il chez EDF?
Alors pour vous répondre, je vais vous dresser les filières et après, dans celle où moi je travaille, l'hydraulique, je vous donnerai des exemples de métiers.
Okay.
Pour vous donner un ordre de grandeur, le groupe EDF va recruter 15 000 personnes cette année en 2022. Donc c'est considérable. Et ça passe par des affectations dans différentes filières. Donc sur les 15 000 personnes, il y a 8 000 salariés, vraiment 8 000 nouveaux recrutements de salariés qui vont être faits. Il y a à peu près aussi 4 000 alternants.
D'accord.
On dit qu'un alternant sur 100 en France
est un alternant EDF.
Est un EDF. Voilà. Et puis en complément de ça, 8 plus 4, ça fait 12. Et on a ensuite 3 500 stagiaires qui passent dans les différentes structures. Sur ces 8 000 salariés qui vont être recrutés à EDF, dès cette année, il y en a 3 500 qui vont aller dans la filière nucléaire. Voilà, il y a un développement important de la filière nucléaire en ce moment, donc on recrute beaucoup. Mais aussi 750 personnes qui vont aller travailler chez EDF Renouvelables, donc les éoliennes, le photovoltaïque. Donc c'est un vrai levier de recrutement en ce moment. Et puis alors moi je travaille dans l'hydraulique, donc là je peux vous donner quelques exemples de métiers. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'instant. Donc des agents et des techniciens d'exploitation de centrales hydroélectriques, des agents de maintenance mécanique qui interviennent sur les centrales hydroélectriques, des usineurs et des soudeurs. Nos centrales, elles fonctionnent, les pièces s'usent, les roues s'usent, et donc il faut les réparer, les recharger. Donc on a des ateliers, on a un atelier juste à côté de chez vous à Pont-de-Claix, on a un autre atelier à Albertville, et donc ces équipes en fait réparent les roues pour ensuite les renvoyer dans les centrales hydroélectriques. Et là on a deux métiers vraiment en tension que connaissent bien les industriels, usineurs et soudeurs. Même si les technologies évoluent, même si les technologies maintenant sont très modernes, on a des tours de très forte puissance, etc., très digitalisées. N'empêche que ces métiers-là sont très en tension. Et puis voilà, après tout ce qui est technicien, contrôle, commande, donc vraiment, quand même, quelles que soient les filières, ce sont d'abord des filières avec des métiers avec des compétences industrielles, techniques et numériques. Ça, c'est vraiment le changement ces dernières années. C'est qu'on passe de l'industrie lourde vraiment à des métiers très centrés sur le numérique parce que le data est partout aujourd'hui, parce que les capteurs sont partout aujourd'hui pour faire de la maintenance prédictive, préventive, etc. Et donc on passe quand même de métiers comme se l'imaginent les gens un peu avec des a priori de l'industrie lourde à des métiers maintenant très tech, très numérique, même dans ces métiers de filière industrielle classique.
Donc là, vous mettez en évidence déjà un des premiers changements de ces nouveaux métiers de l'énergie qui sont adaptés finalement aussi au monde qui entoure le secteur de l'énergie.
Exactement.
Très bien, je vous remercie. À vous, Sophie. Dites-moi quel type de profil vous recrutez.
Moi, je rejoins Manuel en disant que effectivement les métiers évoluent et même les métiers de l'industrie, puisque nous sommes tous des industriels autour de la table, et des secteurs comme le mien qui est la métallurgie, ce qui est sympa, c'est que ça les rend un peu plus glamour, parce que moi je suis très fière de mes chaudronniers, de mes soudeurs. Quand je communique sur eux, je les appelle mes artistes, parce que je pense que ce sont des artistes. On a une petite niche dans l'art d'ailleurs avec ACS, parce que ça leur permet de pouvoir faire découvrir leur beau métier au grand public, parce que à partir d'une tôle d'acier, on peut faire plein de belles choses.
Vous voulez dire que certains de vos soudeurs font de l'art à côté ou...
Une de nos niches où on fabrique des œuvres d'art, absolument.
Ah d'accord.
Et ça fait découvrir.
Sur leur temps de travail.
C'est pour moi. C'est l'une des niches d'ACS. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tous ces métiers, j'ai à peu près les mêmes métiers que mes confrères. Hein. On a besoin de. Là, vous voyez, on est en train de chercher un chaudronnier expérimenté pour ACS. C'est plutôt très compliqué et le milieu est plutôt très petit. Alors on bénéficie d'une belle réputation au niveau RSE chez nous parce que c'est ce qui nous anime au quotidien. On a une histoire qui fait que c'est un chaudronnier qui a créé la structure, mon papa. Moi je suis fille d'ouvrier, j'en suis très fière et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect entre moi-même et mes salariés. Donc je pense que le recrutement passe par là aussi. Mais à un moment donné, indéniablement, l'industrie a été malmenée et ce sont des métiers qui, en termes d'image, pâtissent d'une image vieillissante alors que il y a plein de choses très sympas et puis à travers Stili qui utilise toujours la même matière première, à savoir le métal, il y a plein de métiers qui sont en train d'émerger. Comme disait Manuel, on va tendre vers un atelier qui sera 4.0, c'est-à-dire qu'il y aura des machines robotisées, On est là pour fabriquer en série. Donc on va équiper nos machines de robots, de capteurs, pour nous aider à aller toujours plus loin dans l'amélioration des produits de nos clients. Et c'est important. Alors après, nos recrutements, c'est des gens qui ont peu d'expérience à d'autres personnes qui en ont énormément et qui seront ingénieurs plus. Voilà, c'est très divers et varié. Je comptais dans la voiture en venant, je révisais un peu avant de venir vous voir. Et on a à peu près une quinzaine de métiers différents chez nous. Qui partent du laseriste vers le plieur, le peintre, parce qu'on a tout intégré dans notre atelier en termes de métier, parce qu'on avait aussi pour objectif de limiter les transports pour limiter au maximum notre empreinte carbone. Pour nous, c'était important. Et surtout, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, ils recherchent autre chose que juste un salaire. Ils recherchent... ils ont envie d'être dans une entreprise qui donne un message et qui et l'environnement que de plus beau dans l'environnement, c'est notre planète subit beaucoup de choses et il est encore temps de la sauver. Et moi j'ai le sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice et je trouve ça formidable. Et il faut donner envie aux jeunes d'aller dans des métiers manuels particulièrement, parce que ces métiers ont été malmenés en termes de communication. Et puis même au niveau scolaire, il faut donner envie. Il n'y a pas que des intellectuels, c'est comme ça, c'est pas grave. Au contraire, on peut avoir une très belle carrière en étant manuel. Moi, je trouve ça passionnant. Chez moi, quand je vois un de mes ouvriers qui a envie d'aller plus loin, eh ben, je lui donne plein de possibilités, de perspectives de carrière, et ils sont contents. C'est juste une question de communication, c'est tout.
Très bien, merci. Je finis avec vous.
Alors. Il reste plus grand-chose à dire.
Non, parce que votre entreprise est quand même celle qui recrute le plus autour de cette table. Donc,
on a recruté. Non, c'est vrai que...
Parlez bien en face du micro.
Pardon.
Décalez-le un peu.
Est-ce que ça va mieux, là? Non, mais c'est vrai, il y a plein d'éléments qui sont intéressants. Là. Je vais repartir en marche arrière. Ce que disait Sophie, ce qui est important, c'est de donner plus, que c'est pas que le salaire. Ce qui est un mot important, je pense, depuis toujours, c'est de donner du sens. D'accord. Du sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est le premier... la première chose importante dans une société, dans quel sens on va, quelle vision on a. Donc ça, c'est des éléments importants. Et moi-même aussi, comme Sophie, on se connaît un petit peu, fils d'ouvrier, de mineur, etc. Donc on a la possibilité de faire plein de choses dans ce beau pays, d'avoir des évolutions de carrière. Et comme on le disait aussi, ce qui est important, c'est de valoriser toutes les étapes du travail. Tout le monde ne peut pas être derrière un écran, et ce n'est pas l'objectif en final d'avoir un MBA, de faire de management, des choses comme ça. On a eu une période où on parlait beaucoup de fabless. Hein, c'était vachement à la mode de dire on va être fabless.
Fabless, ça veut dire sans usine.
Ça veut dire sans usine.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on ne fabrique plus, mais on vend et on fait du marketing et on donne une image. Et je pense que c'était une grosse erreur de notre industrie. C'est important d'avoir tous les maillons de la société. Parce que si on est fabless, au bout d'un moment, on ne sait plus faire.
Et on est dépendant.
Et bon, dépendant, c'est une des raisons. Mais en plus, on ne sait plus faire, on n'a plus nos compétences. Je pense qu'il y a eu ce flou pendant plusieurs dizaines d'années, je dirais même à l'école, par rapport à la valorisation des métiers, par rapport à l'éducation en tant que telle, c'est important. Et moi, dès que j'étais diplômé, j'allais dans les écoles expliquer ce que je faisais pour donner envie aux enfants. Parce que si on ne donne pas envie... Il n'y a pas de motivation. Dès qu'on donne envie à quelqu'un d'expliquer ce que fait, ce que ça a comme impact, ben tout de suite, on multiplie les forces. Chez HRS, on a pris ça aussi dès le départ. On prend de l'alternance, mais des niveaux bac même, qu'on accompagne jusqu'à des niveaux à faire de la formation. On a fait nous-mêmes notre école, entre guillemets, qui était en train de disparaître, notre école de formation. On va faire sur notre plateforme d'essai aussi de la formation, de l'éducation, de l'explication pour montrer ce que c'est le boulot et alimenter notre vivier de personnel. Parce que c'est difficile de trouver un bon chaudronnier, parce que c'est très difficile de trouver un bon tuyauteur ou comme un expert. Après, des experts, on va en trouver quelques-uns. On n'a pas besoin de 120 experts dans une société. Il en faut quelques-uns qui donnent la direction, qui sont des bons communicants et bons explicateurs, bons professeurs, pour pouvoir entraîner derrière eux toute une équipe. Mais les métiers, on va les recréer, en fait, on les a créés. Donc, je ne vais pas répéter, project management, soudage, démarrage, installation. L'avantage aussi chez HRS, c'est qu'on fait tout. On a décidé de tout faire, de A à Z. Comme ça, on a tous les métiers, on n'est pas dépendant de qui que ce soit au niveau service, après-vente, etc., intervention sur les sites. On comprend tout. On recrute beaucoup, bien sûr, on recrute encore. Je pense qu'il y a une quinzaine de postes qui sont affichés là, au niveau du salon. des spécialités, machines tournantes, frigo froid ou gestion du froid pour refroidir l'hydrogène, parce qu'il y a des petites complexités. Mais je ne suis pas inquiet, on va les trouver. Je sens aussi qu'il y a un dynamisme qui revient au niveau des jeunes, qui ont envie de donner du sens à leur vie, à leur travail, et puis d'être dans l'opérationnel. Moi, je le vois à la maison, mon petit dernier, il veut voir ce qu'il fait, quoi. Il veut plus simplement être derrière un écran et derrière quelque chose de virtuel, entre guillemets. Voilà un petit peu. De la numérisation, si peut-être deux points, on a parlé de numérisation. Je pense qu'il y a deux niveaux. L'usine, oui, il faut automatiser, être plus performant pour qu'on soit compétitif au niveau international. Et les machines elles-mêmes qui sont dispatchées dans le marché, les usines, enfin nos mini-usines, qui soient complètement contrôlables, anticipables, etc. Donc il y a énormément d'évolution qui est faite aujourd'hui dans la technologie. On peut faire énormément de choses. Je rejoins Manuel. La data, c'est important. C'est là où il y aura la valeur, parce qu'il faut aussi optimiser tous ces outils, et c'est là où on pourra être compétitif.
Eh bien, je vous remercie.
On va faire une petite pause musicale. Je vous le propose, et puis on se retrouve juste après avec nos invités. Allez, je tease la prochaine question. À travers ce qu'on a pu entendre chez vous quatre, finalement, est-ce qu'on parle de nouveaux métiers de l'énergie, ou est-ce qu'on parle plutôt d'une évolution naturelle ou forcée de métiers existants? Eh ben, c'est juste après la pause musicale que nous inquiétons, on va répondre à cette question. We might struggle because life's a bitch. And you happy when your ass get rich? Blow my money cause I bag is sick. Got some troubles that these girls can't fix. We might struggle because life's a bitch. And you happy when your ass get rich? Blow my money cause I bag is sick. I just lost my house to the drought, ayy. Now I'm staying on my mama couch, ayy. Tell me get a job or to bounce, ayy. Never paid a bill, I cop an ounce, ay. I can spend a 20 on a dub, but I can't even spend it on some shit I really love. I need some TLC, but bitches treat me like a scrub. I gotta drive my mama car to pull up to the club. Ain't nothing left to do, but now a nigga gotta hustle. I got it out the mud and then I get it out the muscle. Maneuver through the game, I put my niggas in the hood, but now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle. My nigga, ay. Got some problems that the music can't fix. Whole squad, everybody on the dick. More money, more problems, and we lit. All my exes texting saying I ain't shit. She said get the bag, go and be yourself. Pretty bitches say I need to be myself. When I was down bad and I needed help, passing by me on the street, you should have seen yourself. Yeah, how did you not remember how it was then? Now all of a sudden I got no cousins. I let up at my gate trying to get buzzed in. You don't give a damn, I don't give a fuck. I can't swim, I got a pool and I'ma drown in it. Drunk on the water, they going clown missing. I be on my own, don't be announcing shit. The chopper make beautiful music, play around. Ain't nothing to do, but now a nigga gotta hustle. I got it out the mud and then I did it out the muscle. Maneuver through the game, I put my niggas in the huddle. Now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle. My nigga, ayy. Got some troubles that these drugs can't fix. We might struggle because life's a bitch. Make you happy when your ass get rich. Blow my money cause I bag it. Sick. Got some troubles that these drugs can't fix. We might struggle because life's a bitch. Make you happy when your ass get rich. Blow my money cause I bag it.
News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.
Et les bonnes ondes ne sont pas que sur News FM, elles sont ici aussi au forum des métiers de la transition écologique, table ronde encore pendant une petite demi-heure. On retrouve nos invités, Manuel Lénas de EDF, Mickaël Guillain de la société Waga, Adamo Screnchi de HRS et Sophie Catuonio de l'entreprise Steely. On continue à évoquer les nouveaux métiers de l'énergie, et du coup la question que j'avais lancée avant la pause musicale, c'est est-ce qu'il y a autant que ça des nouveaux métiers autour de ces questions énergétiques, ou est-ce que, comme on l'a entendu notamment avec Sophie, il y a une évolution de métiers, alors soit des métiers qui sont encore bien en place, soit des métiers qu'on considérait à tort comme vieillissants ou peut-être destinés à disparaître avec le progrès. Eh bien non, finalement, ce sont ces métiers-là qui reprennent un nouvel essor. Alors, qu'en est-il par rapport à vos propres expériences, votre propre regard sur ce domaine professionnel autour des métiers de l'énergie, nouveaux métiers ou évolution? Mickaël?
Allez. Bon, très clairement, c'est une évolution. On n'est pas sur des nouveaux métiers. Par exemple, si je prends concrètement la plateforme chimique de Pont-de-Claix, il n'y a pas si longtemps, on avait des opérateurs postés qui surveillaient l'usine hein, ou les machines et qui les pilotaient, c'est-à-dire qui réglaient en permanence le bon fonctionnement. Aujourd'hui, à Waga Energy, on a exactement le même métier, des gens qui surveillent les usines, qui vérifient le réglage et qui en permanence la font évoluer. Sauf qu'ils pilotent des usines qui sont à 500 km, 1000 km. Ils ont même la possibilité de piloter des usines qui sont aux USA. Et ils font ça de leur bureau. Donc on a réellement une évolution du métier qui va être liée à surtout la recherche des conséquences de ce qu'on fait. On n'a pas forcément l'appréhension physique de ce qu'on est en train de bouger. Donc on va pas pouvoir s'appuyer sur nos instincts habituels, le son, même une odeur ou des choses comme ça, qui étaient vraiment l'habitude des postés qui étaient avant dans les usines. Par contre, ils vont avoir des outils à disposition qui sont beaucoup plus fins, enfin vraiment différents. Ils vont beaucoup plus s'appuyer sur des capteurs, sur des tendances, sur de l'interprétation. Donc c'est vraiment des choses, un métier qui est vraiment différent. Et pourtant, quand on regarde les supervisions d'usines à la plateforme de chimique de Pont-de-Claix à l'époque, il y a une dizaine d'années, on va dire, et puis ce qu'on a aujourd'hui, je pense que vous ne verriez pas la différence. C'est toujours un écran, des réservoirs, des vannes, des tuyaux, voilà. Mais le métier, lui, il a vraiment changé. On a aussi changé dans la confiance et l'autonomie qu'on a. À une époque, on avait un chef de poste, trois postés en dessous, et puis chacun avait son rôle et on ne sortait pas de son rôle. Dès qu'on avait un problème, moi j'étais ingénieur process, on allait chercher un ingénieur process. Aujourd'hui, il y a vraiment une délégation de la responsabilité à ce niveau-là et de l'autonomie qui est juste énorme. Nos techniciens, aujourd'hui, on se contente pas de leur dire « faut piloter l'usine », ils vont aussi pouvoir modifier les régulations, modifier les paramètres des automates. Ils ont vraiment une autonomie qui est beaucoup plus intéressante. Voilà.
Donc on ne parle pas de nouveaux métiers, mais plutôt de nouvelles techniques, nouvelles technologies qui ont fait évoluer ces métiers.
Oui, c'est ça. On va s'appuyer sur tout ce qui a été apporté par les nouvelles technologies, mais au fond, l'objectif reste le même. Il s'agit d'optimiser la consommation énergétique d'une usine pour produire la même chose. D'accord ? Il s'agit que l'usine fonctionne bien et n'utilise pas 2 kW pour produire 1 kW. Mmh. Voilà.
Manuel ?
Oui, je suis parfaitement en phase. Les nouveaux métiers deviennent des nouveaux métiers seulement quelques années après avoir intégré des technologies. Donc c'est les technologies qui drivent l'évolution des métiers. Je prends un exemple, nos exploitants sur les barrages, aujourd'hui, ils utilisent des drones pour aller faire des inspections, des survols, aller vérifier la situation d'une prise d'eau en altitude ou une conduite forcée un peu difficile à accessible. Le métier demeure le même, exploitant hydroélectricien. Simplement, c'est la technologie qui finalement est intégrée dans l'exercice du métier qui fait que le métier évolue. Peut-être que dans 10 ans, on aura des opérateurs de drones permanents à plein temps. Et là, on pourra dire que c'est un nouveau métier. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que les métiers évoluent au fil de l'arrivée de technologies, au fil de l'intégration de ces technologies dans les activités des professionnels. Donc voilà, pas de rupture et de nouveaux métiers au sens strict. On verra peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, des métiers comme ça qui intégraient une partie de la technologie deviendront peut-être des métiers exclusivement dédiés à cette technologie. Mais voilà, la réalité, c'est que c'est très progressif.
Mmh. Sophie, est-ce que vous partagez aussi l'opinion de vos deux confrères ?
Absolument, absolument. C'est en intégrant toutes ces technologies modernes qu'on fait évoluer nos anciens métiers, comme je vous disais, dans la métallurgie. Après, il y a la réglementation, il y a le côté RSE, il y a plein de choses qui évoluent. Et au contraire, ce sont des métiers qui sont formidables et qui justement peuvent donner un sens. Là, on est tous autour de la table et on donne un sens à des métiers qui, malheureusement, à l'image du grand public, n'en avaient plus. Mais c'est une question d'éducation aussi. Moi, j'aurais tendance à dire aux parents, mais s'il vous plaît, arrêtez de vouloir faire des intellectuels. Vos enfants aiment leur planète. Vous aussi, je pense que le Covid a changé les mentalités aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, les gens se sont retrouvés coincés chez eux. Ils ont eu le temps de réfléchir à plein de choses. Et j'ai envie d'avoir un gros salaire, etc. Ça suffit plus. Maintenant, ils ont envie de s'éclater. Et les anciens métiers sont en train de devenir des métiers modernes, finalement. Puisque moi, je vois, chez Stilly, on va investir, par exemple, dans une presse plieuse. Dans une chaudronnerie à l'ancienne, c'est l'homme qui tenait la tôle. Demain, ça va être un robot qui sera dirigé par l'homme et qui emmènera la tôle à être pliée. Donc ce sont les mêmes métiers, mais qui se modernisent et qui, je pense, deviennent plus glamour. C'est le terme un peu à la mode en ce moment, mais il ne faut pas dénigrer ces anciens métiers. Et au contraire, on est en train de s'adapter et ça fait... l'industrie évolue, mais dans le bon sens, très clairement.
Sophie, ça m'évoque quelque chose que vous êtes en train de dire sur la question de la pénibilité. C'est aussi des métiers qui pendant longtemps ont souffert d'une image de pénibilité. Est-ce que l'une des nouveautés des métiers de l'énergie, comme des métiers de l'industrie en général, c'est une évolution de cette pénibilité-là? Est-ce que vous pensez que c'est le cas?
Mais complètement. Je vais vous donner un exemple très simple. Mon papa a commencé à l'âge de 14 ans dans un atelier. Il en a 72, donc vous voyez, ça fait quelques années de ça. Il me raconte toujours l'histoire de son premier jour où on lui a mis un énorme hache, on appelle ça une grosse poutre si vous préférez, en acier sur l'épaule. Il avait 14 ans, vous imaginez la taille, et puis on lui a pas fait de cadeau. Toute la journée, il a porté des poutres. Aujourd'hui, moi, je peux pas faire porter plus de 25 kilos à mes salariés, et je trouve ça extrêmement bien, parce que de toute façon, à un moment donné, on va les user, et puis on trouvera plus personne pour avoir envie de faire ce métier-là. Aujourd'hui, il y a des choses comme la cobotique, par exemple. La cobotique, en fait, c'est...
Définissez, oui, parce
comment,
que...
La cobotique, comment vous définir ça? C'est, en gros, une sorte de... C'est un robot qu'on va installer... Enfin, une sorte de squelette qu'on va
c'est
installer sur la personne.
Un humain augmenté?
Voilà, un peu ça. Comme Robocop. Pour vous imaginez la chose. Et puis, qui va faciliter la gestuelle pour des métiers très difficiles. Et justement, toutes ces technologies-là, elles sont là pour aider les métiers difficiles qui étaient difficiles à l'époque. Aujourd'hui, on va se parler franchement, hein, quand on est chaudronnier, oui, ce sont des métiers difficiles, mais il y a plein d'outils modernes qui font que ça simplifie la vie. Et puis, travailler dans l'énergie pour pouvoir protéger notre planète, ça n'a pas de prix. Et tous ces vieux métiers, maintenant, ont retrouvé un nouveau souffle grâce à ces nouvelles technologies, grâce à du sens. On a donné du sens réellement à tous ces nouveaux métiers, à tous ces nouveaux marchés, pardon. Alors, par pitié, c'est surtout l'éducation. Les parents, mais aussi l'éducation, les professeurs, il faut qu'ils prêchent pour si un gamin a pas envie de continuer l'école sur quelque chose de théorique, il faut le mettre dans des BTS. On en parlait à la pause avec mes confrères. Il y a des formations qui existent et qui sont pas assez, sur lesquelles on travaille pas assez, on communique pas assez.
On va y revenir sur les formations. On laisse juste Adamo apporter aussi son
voilà encore
son
une
regard.
Fois je pense que oui, il y a pas la rupture est toujours un peu difficile, même si je pense qu'il y a eu quand même ces dernières années, même à une échelle un peu plus longue, un peu de rupture dans l'état d'esprit peut-être des gens et de la société. Je pense qu'il y a eu des petits cliquets qui se sont mis en place. On veut fabriquer localement, on le voit, nos problématiques de supply chain. Il y a eu quand même un petit peu de rupture dans l'écosystème. Par contre, moi je dis toujours, on démarre pas lundi matin en disant je vais innover et vendredi j'arrête. L'innovation, c'est du continu, c'est quelque chose qui est là, et puis à un moment ça arrive à maturité et ça passe dans l'industriel et ça ramène à des métiers qui évoluent en fait. Ça se suit. La technologie, comme disait Manuel, c'est le fondement de l'évolution et de la transformation. Et ça a toujours été comme ça, le feu, le charbon, l'acier, etc. Enfin, les nouvelles technologies, la data. Donc ça évolue. La pénibilité, j'en ai parlé. Les technologies sont là pourquoi ? Pourquoi on innove ? Pourquoi on cherche des nouvelles façons de travailler ? Un, pour gagner du temps. Deux, parce que si on peut faire autre chose, c'est bien. Et deux, la pénibilité. Je pense que ces deux drivers, on en a parlé, vous en avez parlé. Je pense que si on arrive à faciliter le travail, à produire plus, de façon plus... safe, plus moins contraignante, moins pénible, et aussi pour gagner du temps, pour avoir un coût de production optimisé. Donc ça, c'est important. Et puis, on change aussi de... Je pense que le monde change. Il y a le Covid qui est un petit déclic qui nous a appris à... finalement, c'est possible. On peut faire des choses... Petite anecdote, si je peux dire aussi. Moi, j'étais pendant la période du Covid en Allemagne, au bord d'une société, une grosse société allemande, 260 000 personnes, donc un petit peu plus gros même que EDF. J'étais au bord. On m'a dit, OK, Adamo, tu viens au bord. Mais le bord, c'est le lundi matin à 8 heures. Donc, il faut prendre l'avion le dimanche soir. J'ai dit, on pourrait pas faire de la visio. On se connaît dans un bord. C'était pas possible. Covid est arrivé. On a fait les bords en visio. Ça posait aucun problème. Donc, il y a plein de choses comme ça où, en fait, ça coûte rien de se déplacer, ça coûte rien de transporter d'un bout de la terre à l'autre des choses, aller faire bouger. Moi, j'avais aussi une histoire avec des crevettes pêchées en Norvège, congelées, envoyées au Maroc pour être décortiquées, remises dans des boîtes pour gagner un centime du kilo. Enfin, il y a tout un système mondial qui était pas top. On a poussé peut-être un peu trop loin. Je dis pas qu'il faut revenir à l'âge de nos grands-parents et on cultivait notre potager, on mangeait ce qu'on avait et on allait faire 2-3 courses, mais il y a un optimum à trouver. Donc il y a un changement de la société, rupture dans la société, le Covid, la guerre en Ukraine, la dépendance énergétique nous accélère aussi en disant, je dis pas que c'est une excuse, parce qu'on le savait très bien qu'on est dépendant des autres au niveau énergétique, mais ça met en face de la table les sujets, les vrais sujets. Et on passe... Je pense qu'on va passer d'un mode de possession à un mode d'usage. Et on le voit dans pas mal de métiers, dans pas mal de marchés, où c'est l'usage qui va devenir plus important, et non plus posséder. Et ça, ça va transformer aussi notre société. Voilà, donc tous ces éléments font que c'est plutôt des évolutions. Par contre, qu'il faut faire vite. Vous voyez aujourd'hui quelle température il fait ici. Vous avez vu la température qu'il y avait à Grenoble ce week-end. Je pense que c'est plus le changement climatique. C'est plus juste du papier et des PowerPoint, c'est une réalité. Donc il faut accélérer. Et donc s'il faut faire un peu de rupture, pourquoi pas, pour accélérer.
Oui, Manuel.
Moi, je voulais revenir aussi sur les raisons en fait qui font qu'on a du mal à recruter dans l'industrie. On l'a évoqué tous les quatre tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un désajustement entre le nombre de jeunes formés sur les métiers que l'on recrute et nous, le nombre de postes qu'on a à pourvoir. Donc, il y a un décalage et il y a un écart qu'on a beaucoup de mal à combler en ayant finalement peu de gens disponibles et prêts à travailler sur ces métiers-là. Donc on peut le déplorer, on peut s'en plaindre, on peut dire c'est la faute au système qui ne sensibilise pas les jeunes à ces métiers, très bien. Et puis notre devoir c'est quand même aussi d'y aller, quoi. C'est-à-dire que si on veut recruter, si on veut donner du sens, il faut que nous on s'engage aussi les industries et les entreprises. Donc je pense que chacun peut-être dira ce qu'il fait, mais voilà, donc ça passe par des... Nous on a la chance dans l'hydroélectricité d'être sur des beaux barrages, des belles centrales dans les paysages, les montagnes, donc c'est top. Donc on fait des portes ouvertes. On va voir aussi les écoles, on travaille avec les lycées, on a des collègues qui vont parler aux élèves, pas forcément ceux qui sont déjà dans les filières techniques, mais en amont, y compris dans les collèges, pour leur expliquer que l'industrie, en tout cas la nôtre, c'est comme ça que ça se passe. On prend aussi des initiatives, par exemple avec la mission locale de Grenoble, on a développé ce qu'on appelle un parcours industrie, donc qui permet aux jeunes accompagnés par la mission locale d'aller voir différentes entreprises, pas que nous, mais aussi d'autres, et qui permet aussi aux conseillers de la mission locale de connaître les métiers de l'industrie. Parce qu'une des difficultés, c'est les prescripteurs de métiers auprès des jeunes, le corps enseignant, tous les accompagnateurs, etc. Donc il faut travailler ces gens-là aussi. Voilà. Et puis... on a fait, par exemple, le 1er juillet prochain, dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne, on ouvre le centre de formation des métiers d'hydraulique d'EDF, qui est à Saint-Martin-le-Vinoux, au public, justement toujours dans cette démarche de dire « venez voir, on va vous faire connaître les métiers, l'industrie, etc. » Donc c'est aussi aux entreprises de s'engager et de mouiller la chemise pour faire évoluer l'image, la perception de nos métiers auprès du grand public.
Absolument. Enfin, là, je veux insister là-dessus aussi parce que c'est important, c'est notre responsabilité aussi. Absolument. C'est pas simplement d'attendre que le système se mette en place, l'éducation.
On a pas le temps, de toute façon.
Même, je dirais, c'est pas normal aussi. Il faut que ça aille dans les deux sens. Et ça, j'adore aussi. Je donne plein d'exemples aussi. Ça fait 20 ans que je vais dans les lycées. On explique. Quand on explique, on donne envie. Et ce qui compte, c'est de donner envie. Voilà. Donc, je trouve ça super ce que vous faites. d'être manuel.
Ça fait une super transition puisqu'on avait prévu avec Christophe ensuite de vous interroger sur les formations. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure, vous parliez d'une formation assez méconnue. Alors, je ne voudrais pas me tromper dans le nom, un BTS.
Le BTS CIRA.
Le BTS CIRA. Mmh. Quelle formation vous connaissez, quelle formation vous recommandez à des jeunes aujourd'hui qui voudraient, je ne sais pas, faire le pari de travailler plus tard dans l'énergie? Déjà, qu'est-ce que c'est des écoles d'ingénieurs, des BTS, des CAP? Est-ce que c'est un peu tout?
Ou apprendre sur le tas.
Ou apprendre sur le tas, mais comment ça se passe en tout cas?
Juste une petite précision, il nous reste 5 minutes dans le cadre de cette table ronde. Il ne faut pas qu'on prenne du retard parce que sinon ça va décaler les plateaux qui arrivent après. Donc on va vous demander de répondre à la question de Myriam, mais de manière assez concise.
J'essaye en une minute.
Allez.
Alors, nous on a essayé à Waga de vraiment d'accompagner les enseignants qui étaient donc sur ce BTS CIRA, mais c'est valable aussi pour des BUT, GIM mécanique, thermique et énergie, enfin des choses comme ça. En fait, moi j'ai trouvé des équipes d'enseignants très très motivées et très très demandeuses de ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai construit avec eux des cours, mais des cours complets, et il a fallu même pas 3 mois pour que les cours qu'on avait construits ensemble soient immédiatement donnés aux élèves. Des interventions, effectivement, les enseignants sont très très preneurs. Ça, c'est vraiment intéressant de voir que on n'a pas en face de nous des gens réticents à ce que les entreprises viennent dedans. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour moi fondamental. Par contre, là où on a un problème, peut-être, enfin, pas un problème, mais ça peut s'améliorer, c'est on a aussi construit des TP, par exemple, parce que des élèves, ils ont besoin des machines, mais des machines qui sont d'aujourd'hui. On a besoin de les mettre face à des problématiques sur les métiers qu'on va avoir. Typiquement, moi, on a construit un TP avec le BTS, donc CIRA, qui est à Vizille, hein, c'est pas très loin. Et on a 4 machines, elles sont prévues. Il y a une entreprise qui est prête à les construire à dimension adaptée pour le BTS CIRA. Et aujourd'hui, le problème, ça va être le budget. Et le budget, c'est 20 000 euros. Donc c'est quand même dommage d'attendre 6 mois pour... Enfin, on va peut-être attendre encore plus. En fait, ça pourrait démarrer en septembre. On a des enseignants qui, gratuitement, sur leurs heures supplémentaires, même pas supplémentaires, parce qu'en fait, c'était du bénévolat, hein, ils n'ont jamais touché 1 euro, ont passé énormément de temps à construire les cours, à construire les TP avec des équipes du lycée qui sont allées chercher des entreprises pour fabriquer, qui ont fait faire les devis et tout. Et en fait, on bloque sur un moment où, je dirais que 20 000 euros au niveau d'un budget de l'éducation nationale, bon, c'est pas... Voilà, c'est pas représentatif. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment un truc. En tout cas, si je dois finir là-dessus, c'est moi j'ai rencontré des enseignants qui étaient vraiment prêts à pousser leurs élèves, qui y croient, mais qui sont d'un volontarisme étonnant. Étonnant. Voilà. Merci. La minute.
Oui, alors très simplement, donc les métiers, on les a évoqués, hein, donc tout ce qui relève de la mécanique, exploitation électrotechnique, automatisme, maintenance industrielle, numérique, et aussi environnement. Parce qu'avec l'évolution de la société, des attentes, des exigences, il nous faut aussi des gens voilà, capables de mesurer, évaluer, etc. Et après, juste un ordre d'idée, quand même pour que les jeunes situent un peu le niveau, à peu près 10% des recrutements se font à un niveau bac pro.
Chez EDF.
40% à un niveau bac plus 2 ou plus 3, et la moitié école d'ingénieur. Donc voilà, ça permet quand même aux gens d'avoir un peu une visibilité sur quelles sont les voies de recrutement les plus importantes. Il y a de tous les niveaux, du bac au bac plus 5, 10% bac pro, 40% bac DUT, BTS, bac 2 ou 3, et puis aussi une bonne moitié d'ingénieurs.
Très bien, merci.
À moi. Donc,
une minute.
Une minute. Bah, je vais vous parler un petit peu de cette année. Ce qu'on a fait, alors nous, les métiers de la métallurgie, en gros, nous, on recherche des bacs pro, ou tout particulièrement, ça s'appelle des BTS CRCI. Donc, c'est les métiers de la chaudronnerie qui soit vont former des chaudronniers, soit des chargés d'affaires. Après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très divers et varié. Cette année, on a vécu des instants très agréables avec des écoles grenobloises, comme par exemple GEM, puisqu'on a donné pour mission à un groupe d'étudiants de nous aider à étudier sur quel marché on pourrait aller pour développer encore plus Tilly. Ils nous ont accompagnés, il y a un vrai échange, ils sont venus visiter notre structure et ça a été un moment d'échange et de partage avec eux qui a été extraordinaire. C'est des gens qui étaient en M2, donc comme quoi c'est pas une question de niveau, et je pense que là, les 4 autour de la table, on a vraiment besoin de profils divers et variés. Mais moi je terminerai en disant, venez dans les métiers de l'énergie. On donne un sens à ce qu'on fait au quotidien et c'est passionnant, et sauvons tous ensemble notre planète. Voilà.
Une minute alors. Donc l'énergie, oui, c'est vrai que c'est important parce qu'en fait c'est le nerf de la guerre. Hein. Depuis qu'on est sur Terre, l'humain se bat pour l'énergie. Moi, j'ai du mal à mettre les gens dans les cases. On dit niveau bac plus 2, niveau bac plus 3. Je regarde pas ça, en fait. Absolument. Je regarde jamais ça. Peut-être c'est l'expérience aussi d'être allé en Allemagne pendant pas mal d'années où il n'y a pas ces cases-là. Tout le monde peut évoluer en fonction de ses capacités, de ses aspirations. Et on peut commencer dans une société industrielle à niveau bac et finir ingénieur. Moi, ça me pose... Au contraire, j'adore ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je ne mets pas les gens... je ne dis pas on recrute tant, on veut chercher un ingénieur. C'est plutôt le type, le profil. Mais après, il y a tellement de cas de figure. En plus, on est une petite société. Il faut prendre les gens qui ont la motivation. C'est surtout 50%, c'est la motivation et la volonté d'aller. Et l'alternance, je pense que c'est quelque chose de très très fort, parce que ça met tout de suite les personnes dans le concret, dans la réalité. Il y en a pour qui ça marche pas, parce qu'il y en a qui sont plus taillés, enfin, qui ont plus des profils qui sont pas dans l'opérationnel, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais très bien, mais il y en a plein où il y a plein de possibilités pour eux, pour les faire, les accompagner dans leur carrière, sans mettre de case, sans mettre de niveau.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. On a discuté, on a abordé, on a amorcé une discussion autour des nouveaux métiers de l'énergie. Merci Myriam pour avoir partagé l'animation de ce plateau. On va repartir en musique, le temps de faire à nouveau une pause avant le plateau suivant et les nouveaux invités, les prochains invités, dans le cadre de ce forum des métiers de la transition écologique. C'est à l'Alpexpo durant toute l'après-midi encore, et puis demain, n'hésitez pas à venir voir ce qui se passe et puis prendre des contacts, éventuellement vous inscrire, postuler à des jobs, hein. Il y a du job dating, il y a des murs d'offres, c'est vrai que ça intéresse beaucoup les jeunes, que ce soit pour des jobs d'été ou plus durable. Je rappelle que nos invités, vous citer, rendre à César. Nous avions Mickaël Guilin de la société Waga, Manuel Lénas pour EDF, Sophie Catuonio pour Stili et Adamo Screnchi pour HRS. Merci encore à tous les quatre.
Merci.
Bonne continuation dans le cadre de ce forum. Et puis, au plaisir de se recroiser sur les ondes de News FM. C'est reparti pour le meilleur de la musique, la programmation News FM. Et c'est Greg que vous retrouverez pour le prochain plateau. À tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.